Vous écoutez RTL. On refait le match.
Eugène Saccomano sur RTL.
On refait le match ce soir avec Hervé Penaud. Salut Hervé.
Salut mon bon Eugène.
De l'équipe, bien sûr, avec Gilles Verdez.
Bonsoir Eugène.
Bonsoir avec Francesca Antoniotti.
Bonsoir Eugène.
Ça va ?
Très bien.
Bon, avec Machenot, Vincent, de France Football.
Bonsoir Eugène.
Que vous pourrez lire demain, oui. Avec une belle interrogation en couverture. Hein, est-ce que Blanc doit rester ?
Non, ou... c'est une affirmation d'ailleurs.
Ah bon.
Mais le nouveau Blanc doit arriver.
Ah, d'accord. Pascal Pro.
Bonsoir
RTL
Eugène.
Et puis Eric Bilderman. Donc nous allons pouvoir parler tranquillement. Alors aujourd'hui, ça fait quand même 3 jours que le match... a eu lieu, on va parler des conséquences.
On va pas en parler.
Voilà.
Ils ont parlé du match.
On va parler des conséquences.
Ouais, du schéma tactique, parce que franchement.
Les conséquences, bah, il était important le schéma tactique.
Ah oui. Mais le schéma tactique, pour rebondir directement sur ce que vous dites immédiatement, et il y a des propos de Louis Nicolas quand même, cet après-midi, qui a dit Laurent Blanc, il n'a pas fait jouer Olivier Giroud, et c'est dommage.
Ouais.
Donc,
pour le vendre à Arsenal. Non,
non, il est vendu,
cher,
ça, il est vendu
cher.
Arsenal.
Pour la
mais
la
c'est vrai,
pour la
c'est
vrai, faut dire qu'il y a eu une histoire entre Louis Nicolas.
C'est des petites critiques.
Il l'aime souvent, Laurent Blanc, il n'aime pas beaucoup, Laurent Blanc.
Non, il ne s'aime pas beaucoup.
Et puis, il n'a jamais été considéré comme le plus grand tacticien de France, Louis Nicolas.
Et dans la presse espagnole, ils disent aussi qu'il a été radin tactiquement. Donc, c'est une impression.
Non, mais c'est vrai qu'Olivier Giroud restera, Eugène, une petite frustration. Oui. Voilà quelqu'un qui a été performant cette année, qui a été souvent formidable, qui a un état d'esprit, pour le coup, lui, irréprochable. Et il n'a pas eu sa chance durant 7 euros au profit
comme
de joueurs peut-être plus talentueux.
Plus souvent que Valbuena.
Oui, comme Valbuena,
oui,
par exemple.
Il est rentré à chaque fois en 10 minutes.
Il n'a pas été décisif non plus sur les 10 minutes. Moi, il m'a déçu sur les 10 minutes.
Il n'a pas
eu
un ballon.
Non, là, c'est pas
Gilles, il n'a pas eu un ballon.
Il a fait une tête.
Oui, une très croisée.
Il peut égaliser.
Comment
il peut égaliser.
Oui, enfin, s'il le rate, on ne va pas lui crier
dessus. Je ne crie pas dessus. Je dis de là à dire qu'il aurait mérité quand il a été appelé. Il ne m'a pas paru transcender les
Bleus. Après les défaites, Pascal, on a l'impression que les absents ont toujours raison, en quelque sorte. C'est-à-dire que Giroud deviendrait le héros. Rappelez-vous de Benzema avant... Non, mais attends, je finis. Oui. Rappelez-vous de Benzema avant le début de l'Euro. Tout le monde considérait que c'était quasiment un des meilleurs attaquants du monde.
Est-ce qu'on peut émettre, sans déclencher les foudres des uns et des autres, quelques critiques, avec tout le respect que l'on a pour Laurent Blanc, pour l'homme qu'il est, pour le sélectionneur qu'il est, pour le passé qu'il a, est-ce qu'on peut émettre quelques petites critique. Je suis d'accord avec vous sur le début de l'Euro, mais comme Benzema manifestement n'y était pas, pourquoi est-il rentré à chaque fois si tard, et notamment sur l'Espagne, contre l'Espagne, lorsqu'on est mené 1-0 à la mi-temps, j'entends le raisonnement de Louis Nicolas qui dit à la mi-temps, pourquoi pas Olivier Giroud ?
Mais à la place de Benzema ?
Non, avec.
Non, pour les faire jouer ensemble.
Avec, ça veut dire que l'équipe revient dans un 4-4-2 qui n'est pas préparé par Laurent Blanc pendant toute la...
Moi, je suis pas d'accord sur cette analyse d'un retour à 4-4-2 parce que Karim Benzema dans le système actuel dézonnait, venait dans la zone
4-1-1 peut-être aussi.
Ouais, c'est 4-4
4-4-1-1
les chiffres
ça peut rien
fusion. Mais ce que je veux dire c'est que
en numéro 10
Nasri et Benzema étaient dans la même zone de jeu. Nous n'avions personne dans la surface. On a presque joué à 10 puisque ces deux joueurs étaient très proches l'un de l'autre. Vous mettiez Giroud en pointe, vous sortiez Nasri, vous mettiez Benzema donc en position de 9,5, donc entre l'attaquant et la position de meneur de jeu. Vous jouiez donc dans un système très proche de celui que prône le sélectionneur, mais simplement avec un joueur, Karim Benzema, qui se serait porté dans la surface. Dans les phases offensives, ça me paraissait assez équilibré.
C'est ce qu'on disait. Giroud aurait pu jouer avec un Benzema qui tenait le rôle de Belanda. Belanda joue en 9,5 à Montpellier.
C'est
apparemment, c'est très complémentaire. Mais Benzema-Belanda, ça peut se ressembler.
Quand tout vous dire. Et il ne l'a pas fait.
Pour tout vous dire.
Il avait dit d'entrée, ça change tous ses plans.
Il va aller à Arsenal, Giroud.
Oui.
Combien il va gagner ?
Mais peu importe.
Bah, il gagnera 300 000 euros par mois. Oui. Il reviendra jouer avec les Bleus. On verra s'il est le nouveau Nasri ou pas.
Mais voilà, il a peut-être un peu raison.
On s'en fiche pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Et c'est on s'en fiche de ce qu'il viendra dans 4 ans. Moi, je suis assez d'accord avec Gilles pour dire que le système pourrit les joueurs. Et pour le cas Nasri, on en reparlera certainement plus tard. Pour moi, c'est une des causes du fait que Nasri ait changé. Parce qu'il y a 4 ans, René Girard, qui était entraîneur des espoirs, disait c'est l'homme adéquat pour les Bleus. Ça va être l'homme de la situation. Et en 4 ans, il a changé, ce serait devenu le vilain petit canard, l'homme qui cristallise tous les maux des Bleus. Je ne suis pas d'accord. Il y a le système qui doit aussi pourrir les joueurs, qui doit les rendre parano.
Oui, mais alors, il ne fait rien en fait de résister au système. L'argent réponse fou. Facile, il pourrirait tout le système, c'est-à-dire les Allemands seraient dans le même,
c'est dans la même Italiens, situation,
les Italiens, les Espagnols
et les 23
aussi.
Français. Mais les Italiens seraient comme Samir Messri dans ces cas-là.
Oui, mais voilà. Balotelli, visiblement, pose beaucoup de problèmes dans le groupe, simplement et comme il gagne, ça éteint toutes les tensions.
Dans l'équipe d'Italie, il n'y a qu'un Balotelli. Alors que nous, on en a 22.
Vous avez dévié. Lorsqu'on aura des petites frustrations et des petits regrets sur l'équipe de France, il y en aura un, me semble-t-il, c'est de ne pas avoir donné sa chance à Olivier Giroud.
Il y a un match le 15 août, Pascal.
C'est peut-être anecdotique
peut-être
pour vous.
Aussi mais moins grande importance, mais de ne pas avoir donné sa chance à Valbuena, oui, qui est dans ses actions.
Moins parce qu'il n'a pas fait une grande saison quand même.
Ah non, mais il a fait.
Il a sauvé Marseille.
C'est le seul. Très régulier.
À chaque fois, soit avec l'équipe de France, soit avec l'OM, à chaque fois, il a brillé. Il brille dans les grands matchs. Voilà, c'est simple. C'est lui qui qualifie l'OM pour la Ligue des Champions.
Mais ce que dit Eric est intéressant, parce que c'est vrai que c'est une vraie utilisation de Benzema, de le reculer.
Giroud est le meilleur buteur du championnat, je vous le rappelle.
Mais on parlera du nombre de buts qu'a mis Benzema, il n'en a pas mis un là, donc ça n'a pas d'obligation parce que vous mettez des buts. Rappelez-vous qu'en 2002, on allait avec le meilleur buteur du championnat de France, du championnat de ci, du championnat de ça, puis on a mis zéro but. Donc ce n'est pas lié toujours au buteur. Et il y a deux ans, tout le monde se moquait d'Anelka parce qu'il est soi-disant, il désonnait, mais il n'avait pas de balle, il était comme Benzema. Mais la question qui est intéressante de ce que dit Eric, c'est de savoir, est-ce que vous descendez Benzema, ou alors, effectivement, si on va plus loin dans ton raisonnement, on peut prendre Giroud. On peut prendre Giroud comme titulaire et dire pourquoi Benzema ne serait pas mis en cause. Pourquoi l'équipe ne tournerait pas plus autour de Nasri que de Benzema.
Mais ce que je souligne avec Giroud, et je vais reprendre mon exemple de la carte, c'est que Giroud n'avait pas la carte quand il avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il n'était dans aucune sélection. La génération 87 avait la carte puisqu'elle était dans toutes les sélections. Giroud a réussi contre quasiment la DTN, nous sommes d'accord, il n'était dans aucune sélection. Aujourd'hui, il est à Arsenal. Et Giroud était à Tours.
Il avait été présélectionné en équipe de France.
Giroud était à Tours il y a deux ans. Il est allé.
À Grenoble, il voulait le virer en disant qu'il n'arriverait jamais.
Giroud a réussi. Giroud a réussi contre tout le monde, contre les techniciens, contre ceux qui savent. Et à l'arrivée, il est, je le répète, à Arsenal.
Pas contre tous les techniciens, puisque René Girard lui a fait confiance. À Tours, Sanchez lui a fait confiance.
C'était une équipe de Ligue 2.
Drogba a connu le même parcours.
Exactement. Drogba a connu le même parcours.
Je crois que les analyses tactiques sont un peu désuètes, il me semble. Le principal reproche qu'on a fait à Blanc sur le dernier match face à l'Espagne, par exemple, c'est de ne pas aligner Menez. On était tous quasiment unanimes là-dessus.
D'avoir aligné Debuchy en cette position. Bon, okay.
Retire le tous unanime. Oui. Je pensais qu'il fallait aligner Menez. Okay. Quand Menez rentre, il insulte son capitaine.
Oui. Et l'arbitre.
Et on apprend ce matin dans un article formidable de Grégory Schneider qu'il s'est préparé, personne ne l'a dit, personne ne l'a vu. Il faut que Grégory Schneider, dans Libération, raconte ce qu'il a vu avec un entraînement avant le match invraisemblable.
Un échauffement
avant le match invraisemblable où, en gros, ces gens font n'importe quoi.
Bon. Chaque fois qu'un joueur de l'équipe de France est rentré, il nous a déçus, il a été mauvais. Donc c'est ce qu'on disait avec Francesca, c'est le système qui est déliquescent. Tant que vous donnerez 500 mois, tu me donnes 500 000 euros, je pète les plombs. Tant que vous donnerez à des jeunes non structurés 500 000 euros par mois,
et comment t'expliques
fou.
Que je résiste
un garçon comme la fois que ça concerne
un garçon
ça,
comme Lloris, un garçon comme Lloris résiste parfaitement.
Mais vous qui êtes des spécialistes de la presse, vous pouvez pas dire qu'il y a pas un jeu peut-être qui s'est instauré un peu vicieux depuis Naïsna entre les joueurs et la presse.
Ça, c'est
qui fait
un peu
qu'il y a constamment
vrai,
ce regard. Les joueurs regardent et n'ont pas confiance en la presse et s'attendent toujours à entendre des horreurs sur eux. Et la presse attend un faux pas des joueurs.
C'est pas la presse qui est responsable des mauvais
parcours. Mais écoutez ce que je dis. Je vous dis que du regard des joueurs, ils ont toujours l'impression qu'on va les attaquer. Ils deviennent parano.
Mais c'est pas vrai du tout parce qu'avant le match de l'Ukraine, la presse était très favorable. Et l'exemple dont refait le match d'ailleurs était très intéressant puisque tout le monde croyait en cette équipe de France, que ce soit Eugène, que ce soit Gilles, que ce soit Vincent. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Lisez les papiers le matin de France-Ukraine.
Je vous dis ce qui se passe.
Moi, je n'y croyais pas trop, mais vas-y.
Ceci dit, en 98, Francesca, moi, je travaillais à l'équipe. Ce n'était pas très évident non plus comme rapport avec les champions du monde. L'agressivité entre joueurs et presse.
Oui. Notamment avec Dugarry.
Je ne vais pas vous raconter ma vie.
Allez-y,
Eugène,
elle est passionnante.
Celle du football français. Mais souvenez-vous d'abord de 78.
1900.
Il y a eu 1978, oui, bien sûr. Et surtout 1982. 1982, la bagarre larvée, pas une bagarre au coup de poing, mais entre Tigana et Platini qui ne se parlent plus. Parce qu'on avait fait un beau gâteau pour l'anniversaire de Platini, c'était en plein fin juin.
Et moi, je la connais.
Et Platini avait déclaré à la presse, c'est un âne ou un truc comme ça, en parlant de Tigana, en citant pas son nom. Et là, Tigana nous avait insultés, nous avait pas voulu nous répondre, etc. Donc, moi, je m'en souviens très bien.
Et en 82, sans parler des affaires de Mario Stati, qui visait aussi un très mauvais climat.
Voilà, Eugène, vous êtes d'accord pour dire que maintenant, avec les nouvelles techniques de communication, avec la surexposition des joueurs, avec leur surmédiatisation et le surfric qu'ils ont, eh bien, tout a pris des proportions extraordinaires et qu'un truc, un petit mot, une insulte dans le vestiaire, ça devient une affaire d'État.
Mais
voilà, maintenant.
Oui, mais ce que je voulais dire, je vous l'ai déjà dit ici, ça, pour ce qui concerne l'équipe de France et l'équipe de Hollande notamment, ça a toujours existé. Mmh. Voilà. Ça, il faut quand même le préciser. Non,
on a l'impression que les mauvais rapports entre presse et joueurs sont nés il y a deux semaines avec. Il y a deux ans avec Naïsna.
Mais personne ne
leur fait. Alors que Platini.
Mais attendez, pardonnez-moi, là vous déviez, vous nous faites 98. Le problème n'est pas.
Non, mais pas 98, je te parle
même. Le problème n'est pas dans cet euro qui vient de se terminer, un problème entre les joueurs et les journalistes. Absolument pas. Le problème,
c'est entre les joueurs et leur environnement, quel qu'il soit.
Et le public. Et le public et la perception.
Mais on est les intercesseurs du rapport entre les gens et le grand public.
Non, pas
quand
du tout.
Ils insultent un journaliste, ils insultent le grand public, bien entendu.
Pardonnez-moi, Gilles, ce n'est pas du tout ce que je retiendrai de cet euro. Ce que les gens disent de cet euro, ils voient l'Italie hier qui se défonce pour le maillot, ils voient l'équipe de France qui semble, je dis bien qu'ils se défoncent,
mais ils se défoncent, les joueurs, mais ils se défoncent individuellement. Il n'y a pas de projet collectif. Mmh. Mais chaque joueur, individuellement, il veut faire le maximum, déjà rien que pour briller.
Écoutez, Nasri marchait. Tout le monde a vu.
Non, c'est pas vrai.
Moi, je veux bien que vous ne le disiez pas.
Quand ça, le dernier match.
Bien sûr, il est
entré. Il pouvait pas marcher parce que dès qu'il avait le ballon, il donnait exprès. Exprès, il n'a pas fait un seul dribble, Nasri.
Et puis il jouait plus
de bas. De peur d'être assommé, de peur. Vous avez vu, hein? Vous êtes d'accord?
Et je vous répète.
Il surjoue. Et là, comme il était traumatisé, il savait qu'il allait, être jugé différemment des autres. Il a sous-joué. C'est-à-dire qu'il a dit. On me demande de simplifier, je simplifie au maximum, donc je ne crée plus, donc je ne suis qu'un passeur de plat.
Et il a joué plus bas en plus.
Il est allé plus bas, mais tout le monde jouait plus bas que sa position du fait de l'adversaire.
On va reprendre la discussion, mais auparavant, on va faire une page de pub.
RTL.
On refait le match.
Technicité, vivacité, impertinence.
Eugène Saccomano.
On refait le match, on en vient à se demander,
Je voulais juste dire un autre truc sur Nasri. Je pense, peut-être que vous allez crier quand je vais dire ça, je pense que son intelligence le rend plus vulnérable que les autres parce que lui comprend tout ce qu'on écrit sur lui. À la différence de certains autres joueurs qui peut-être sont moins sensibles, n'écoutent pas, ne lisent pas ou disent ouais, on s'en fout. Lui, il écoute, il est à fond.
Mais il est très sensible en plus à ça. Lui, ça le touche véritablement. Donc, on peut comprendre. Alors, on n'excuse pas, attention. Mais s'il faut essayer de comprendre pourquoi un joueur peut réagir de cette manière, parce qu'il a eu l'impression d'être un bouc émissaire facile.
Alors moi je voudrais vous citer deux phrases de Samir Nasri dans une interview récente qu'il a donnée à Sport & Style, un supplément de l'équipe et de l'équipe magazine. Ton proverbe ou ta devise préférée, c'est une question qui était posée par Tatiana Golovine qui l'avait interviewée. Alors mon proverbe préféré.
Je me suis abstenu de préciser.
Quel est ton proverbe préféré? Les chiens aboient et la caravane passe. Donc ça viendra en contradiction de.
Dans ce cas, il n'a pas à revenir à ce qu'il dit.
Être, puisque je suis assez d'accord avec toi, je sais qu'il lit tout, je sais qu'il est d'une hypersensibilité, effectivement c'est un garçon intelligent, effectivement il est très attaché à son image, mais en même
justement,
temps
justement les proverbes qu'on aime, c'est ceux sur,
c'est
quoi
ceux
on
sur lesquels on doit aller,
c'est le paradoxe de l'homme,
c'est le paradoxe de l'homme, et le deuxième, puisque effectivement l'homme est un paradoxe vivant, sa deuxième devise, traite les gens comme tu aimerais qu'on te traite.
Moi, je pense que sa devise.
Voilà, si on lui dit
ça, la deuxième.
Sa devise préférée, je pense que c'est la livre sterling.
On ne sait pas si on nous avait proposé de partir d'un club. Il va pas. Enfin, là, c'est débile, on parle de n'importe quoi.
Mais il est champion de
tous les joueurs. Ils jouent quand ils sont sur le terrain, ils ne pensent pas à la livre sterling.
Bien sûr que non.
Franchement. Non, alors, ils la touchent, là. Ils sont heureux de toucher beaucoup de livres sterling, mais tous les joueurs du monde, enfin, tous les joueurs qui sont à 7 euros, la touchent.
Mais il va, Ribéry, par contre, il n'a pas de livre, lui.
Non mais Eugène, sans Sterling, il y a quand même une distorsion dans le rapport économique et monétaire. Or le football de haut niveau, ce n'est que de l'argent. Vous n'allez pas me dire qu'il y a la moindre notion de plaisir.
Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai.
Je peux finir ma phrase. Il y a aucune notion de plaisir, d'amusement, de distraction. Il n'y a que l'argent. Non, il y a que l'argent
qui prédomine,
qui compte pour les joueurs. Sinon, ils n'iraient pas tous signer Arsenal, je sais pas où, pour gagner trois fois plus.
C'est un club pour être champion quand même.
Non mais nous sommes d'accord. Mais quand ils sont sur le terrain, ils jouent.
Non, parce que quand ils sont en équipe de France, ils gagnent trop peu d'argent par rapport à ce qu'ils gagnent en club. Et quand ils deviennent des mercenaires, ce n'est plus en club, c'est chez les Bleus. Si voilà le problème.
Ils prennent une prime là quand même, non ?
Mais attendez,
bien sûr.
Il n'a pas signé.
Bien sûr.
Ce qui est lamentable. Ils ont une prime de 100 000 euros qui est lamentable.
Mais Eugène, il n'a pas signé au Shanghai chinois. Il a signé à Manchester City. Il est champion en fin de saison. Enfin, quand
vous rendez compte qu'en période de crise, ces joueurs vont toucher chacun 100 000 euros pour la prestation qu'ils ont
donnée. Mais c'est rien, 100 000 euros, ils gagnent 500 000 euros.
Si alors, je vais vous dire, si c'est rien, qu'ils ne la touchent pas, alors ça fera des économies, ça fera 2 millions... 2 millions 3.
Vous êtes quand même sacrément populiste.
Non, mais un exemple, pourquoi
là, vraiment, dans une démagogie absolue.
Mais pourquoi ça?
Non, moi je dis qu'ils ne les méritent pas. C'est tout.
Ah voilà, ça c'est un autre débat.
Mais
il mérite 500 000 par mois.
Eric.
Oui, juste une illustration, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est plus pour donner une information que pour porter un jugement moral. Les Italiens ont décidé de reverser leur prime suite au tremblement de terre qu'il y a eu en Italie. Donc un fonds
d'aide aux organisations
caritatives. C'est vrai que ils n'ont aucune obligation morale, mais vu le contexte de critique qu'il y a autour de ça... S'ils avaient envie de faire ça, ça serait sympa. Maintenant, s'ils ne le font pas, on n'a pas à leur tomber dessus. Ils sont en quart de finale, ils devaient toucher 100 000 euros, ils touchent 100 000 euros.
Eric, tu ne sais pas ce que fait chaque joueur individuellement. Il y en a pas mal qui aident.
Après Misna, il y a eu des...
Et puis, il y en a pas mal qui ont des organisations qui s'occupent d'enfants en difficulté. Ils en parlent pas.
C'est pour ça que je donne une information, je t'ai dit, je ne la commande pas avec un jugement moral.
Mais quand je trouve ça démago de dire qu'ils ne devaient pas prendre leur argent parce que... Voilà, il faut comprendre qu'on est dans un système économique qui génère des revenus et des capitaux. Que se passe-t-il? Quand vous êtes qualifié pour un euro, vous avez de l'argent donné par l'UEFA, des sponsors, etc., etc. Cet argent-là, au bout d'un moment, il revient un peu aux joueurs. Ils avaient décidé de dealer sur un principe où aucun centime si vous ne passez pas jusqu'en quart de finale. Donc ils n'avaient rien sur les trois premiers
c'est
matchs.
Même le minimum. Non, heureusement, enfin, quand même, Hervé, vous semblez que...
Non, mais c'est les discussions. Parfois, vous pouvez avoir la victoire tant d'euros.
Et oui.
Bah oui, c'est comme ça. Ils avaient décidé, à partir du moment où ils atteignent le premier objectif, ils ne vont pas dire « bon, on l'a atteint, mais finalement, on ne veut plus de l'argent parce qu'on n'a pas été bon en quart de finale ».
Et oui, l'objectif, c'est généralement dans les matchs, c'est match gagné, match nul ou match
après,
perdu.
Après, ça dépend des joueurs qui...
Alors moi, je pense que, pour revenir encore...
Il faudra une sorte de... Appelez ça comme vous voulez, code de déontologie, charte...
Ils avaient signé quelque chose.
Charte des joueurs qui, en équipe de France, avec des comportements... Je vais vous citer un exemple. Au Milan AC, les joueurs arrivent le matin à 9h, ils repartent à 18h. Au Milan, si vous préférez. Les joueurs arrivent à 9h du matin, ils repartent à 18h, ils restent toute la journée au Milan. Ils font la sieste, ils déjeunent, petit déjeuner, etc.
J'ai déjeuné.
Vous savez ce qu'ils font, la première chose qu'ils font lorsqu'ils arrivent? Ils mettent leur portable au vestiaire. Mmh. Voilà. Eh bien, peut-être qu'un jour, on arrivera à une discipline de ce type, que les joueurs de l'équipe de France seront peut-être plus concentrés.
Faudrait-il encore avoir des installations comme Milanello? Il y a peu de clubs français qui peuvent se permettre de faire loger, faire coucher leurs 23 joueurs.
Ça évitera peut-être à M. Ben Arfa de téléphoner pendant que le sélectionneur parle.
Oui, mais au-delà de ça, la faute, elle n'est pas au dernier maillon de la chaîne. Le dernier maillon de la chaîne, c'est les joueurs. C'est les instances qui sont en faute. C'est les instances qui doivent mettre de la discipline. C'est le sélectionneur, c'est pas les joueurs. On a reçu Monsieur Laurent Blanc à ses foot au début de la saison, et je le faisais revenir sur l'histoire Carlos Tevez et sur Balotelli, et il me disait: moi, je les garderai dans mon effectif parce que je préfère avoir des joueurs avec du caractère et des joueurs fous que des joueurs qui ont moins de talent. Et ben ça, c'est le résumé de ce qu'avait envie de mettre en place Laurent Blanc.
C'est vrai, tout à fait.
Et tout
c'est
ça, vrai, c'est à changer. Et c'est ça qui doit changer. Et si maintenant, si cet euro lui a fait se rendre compte de ça et qu'il va devoir changer tous les joueurs et qu'il pourra peut-être avoir deux petits fous, mais il peut pas en avoir 11. Voilà.
Et c'est vrai qu'avec l'explication que tu donnes, qui est intéressante, et la conclusion que tu tires, on se dit que aujourd'hui, plutôt que de vouloir à nouveau tout détruire, partir sur un autre sélectionneur, on peut se dire que Laurent Blanc a compris quand même beaucoup de choses de ses erreurs, de l'analyse théorique qu'il faisait de sa relation aux joueurs et de l'analyse aujourd'hui pratique a posteriori qu'il va pouvoir en faire, et que peut-être sur les deux années à venir, il y a un intérêt à le maintenir à condition, et c'est là où j'ai une question à poser, à condition que lui ne souhaite pas démissionner. Il est peut-être déçu par son expérience, enfin, déçu par les hommes.
Mais pas prolongé.
En tout cas, pas prolongé. Voilà, oui. Effectivement, c'est le terme exact. Et peut-être aussi est-il déçu de lui-même, c'est-à-dire s'est-il rendu compte qu'il a eu a priori, plus de difficultés à gérer un groupe qu'il ne le pensait, que son aura de vainqueur de la Coupe du Monde 98 n'est pas suffisante.
Il veut continuer.
Là où c'est déceptif, c'est que toute la France pensait que Blanc allait arriver, entre guillemets, à mater les caractères difficiles, à les faire rentrer dans le moule, que lui aurait le respect, que lui serait écouté et que lui les avait pris.
Il n'y a pas eu le respect, justement.
Et il n'y a pas eu ça. Donc tout le monde est étonné parce qu'on se dit, si même Blanc n'est pas écouté de ces joueurs-là, qui va l'être? C'est toute la France qui n'est plus écoutée.
Parce qu'on oublie. Oui, mais c'est pas mal aussi. Mais on oublie aussi une chose qui est importante, c'est le manque d'expérience de Laurent Blanc. C'est un jeune entraîneur. Bien donc sûr. Il est confronté à ses premières difficultés de sélectionneur, comme disait Eric. Bah, il s'est retrouvé avec un groupe en difficulté.
Je balaye ça, pardonnez-moi. Un joueur qui est dans les vestiaires depuis 20 ans, je pense que c'est pas le problème. La nature de Laurent Blanc ne le pousse pas à jouer comme Roger Lemaire, par exemple, les généraux ou les caporal-chefs. Il part du principe sur l'exemple Nasri que c'est un problème entre Nasri et les journalistes et il ne veut pas intervenir. Moi, je pense qu'il se trompe parce qu'à partir du moment où un problème est sur le terrain, il concerne l'équipe de France, donc l'autorité de l'équipe de France.
À propos, vous avez cité Roger Lemaire, qui est un bon garçon d'ailleurs, mais qui est un grand vainqueur de l'Euro 2000 et un piteux perdant du Mondial 2002, où il y a eu, je m'en souviens parfaitement, beaucoup d'histoires. Hein.
Absolument.
En 2002, ça a été catastrophique.
L'Hôtel des Bleus, notamment.
L'Hôtel des Bleus, c'était où il y avait un casino
festival ambulant. Et d'autre part, Roger Lemaire a explosé à cause de ses rapports avec la presse aussi. Hein, parce qu'en plein Euro 2000, il a arrêté de parler aux journalistes. Et donc voilà. Et
moi, je suis d'accord avec vous, mais là, le problème de la presse ne se pose pas. Vous avez raison pour 2002, peut-être, pour 98, sans doute. Mais là, je ne vois pas de rapport difficile entre la presse et les médias. Je pense c'est avec le public français.
Entre la presse et les médias. Non,
entre la presse et l'équipe de France. Non, là, il n'y a pas de souci majeur.
Juste pour dire pour dire quelque chose de Laurent Blanc. Laurent Blanc, il a les défauts de ses qualités. On disait que c'était génial parce qu'il est proche des joueurs, que justement, c'est un jeune entraîneur, donc ça fait pas très longtemps qu'il était joueur, il les comprend. Et bien justement, peut-être qu'il les comprend trop, peut-être qu'il a été trop gentil avec eux. Le peu de joueurs à qui j'ai parlé te disent qu'ils s'entendent hyper bien avec lui. Justement, il y a peut-être cette limite entre
Et les 6 derniers mois de Bordeaux ont été très délicats, me disait le président des Girondins, trio l'autre jour. On était à M6, on a bavardé. Et c'est vrai que lui, il a vécu ça, trio, les 6 derniers mois de Laurent Blanc, et c'était pas...
La grande faiblesse de Laurent Blanc, c'est que c'est un garçon consensuel. Il n'aime pas le conflit. Quand on est sélectionneur, je suis désolé, parfois, il faut y aller au conflit. Il faut même y aller souvent quand t'as les sales caractères que tu as sélectionnés.
Je pense que Vincent touche là une réalité très grande. C'est que pour être entraîneur, c'est des Giroux, c'est des Jacquet qui savaient trancher. Laurent Blanc, sa nature, et là, il n'est pas en cause, sa nature est comme ça, ne le pousse pas.
S'il n'est pas en cause, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Donc,
c'est pour ça qu'on dit qu'il doit changer, mais il ne changera pas. Parce qu'il est comme ça.
Sa nature ne le pousse pas. Il a été, je pense, ulcéré de voir ce qui se passait. Il a eu sans doute eu tort de ne pas prendre des sanctions, et notamment la première d'entre elles sur lesquelles vous m'avez contesté toujours, après France-Angleterre, qu'il fallait remettre Samir Nasri dans l'avion.
C'était la révolution. C'était Naïsna. Il se mobilisait comme pour Anelka, Naïsna, Kirchha.
Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Il fallait sanctionner. Vous vivez dans un monde. Vous vivez dans un monde sans sanctions.
C'est drôle parce que Naïsna, si on le regarde avec du recul, on peut se dire que ça a été une très mauvaise réaction, mais une réaction collective d'une équipe, d'un groupe. Ça a été un mouvement social, pratiquement.
Pour réhabiliter d'un groupe.
Non, mais ce que je veux dire, c'est
franchement,
que...
Franchement, je rêve.
Mais tu ne rêves pas, tu n'écoutes pas, c'est différent.
Je t'aime en même temps.
Et cette fois-ci, ça a été une accumulation de réactions individuelles, égocentrées. Donc, c'est difficile de comparer les deux. Bien sûr qu'il y a un fil conducteur, parce qu'on a ce regard, à chaque fois, on ouvre les yeux, on se dit, mais ils descendent pas du bus, ces idiots. Mais... Et puis après, 2 ans après, on les voit insulter.
Ils descendent pas la vitre,
et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est en perte totale de compréhension. Mais les deux événements sont presque antinomiques.
Alors j'ai vu que, par exemple, Evra était plus ou moins visé. Or Evra, il a été tranquille pendant.
On l'a pas entendu. Il est visé par qui?
Pourquoi il est visé?
Écoutez, vous avez des conversations avec les gens du staff. Ils sont rentrés, ils vous parlent. Oui. Donc de la même manière, moi, ils m'ont parlé. Il y a quatre joueurs effectivement qui sont dans le collimateur du staff. Vous
les
savez.
Trois plus Evra.
Menez, Nasri, Benarfa et Evra. Alors Evra, effectivement, moi, j'étais le premier surpris. Et Evra, ça a été compliqué. Mon interlocuteur m'a dit Evra, c'est un type, il adore l'équipe de France.
Ah,
il est passionné de l'équipe de France. Ça, c'est entendu. Mais il y a un problème comportemental.
Et le problème comportemental est simple. C'est-à-dire, du jour où il a été, voilà, il a perdu sa place, et il a râlé dans tous les coins, ça, c'est sûr.
Mais
c'est normal et humain. On ne peut pas lui reprocher.
Ça fait
partie. C'est pas Nizna. Ouais.
Mais c'est vrai que sur le tempérament de Laurent Blanc, c'est pas faux ce que vous dites. C'est qu'il est comme ça, il changera peu, il changera pas. De toute façon, on change pas, on évolue. Mais la grande différence entre sélectionneur et entraîneur, c'est que d'une certaine manière, on peut être un peu plus consensuel et s'en sortir comme sélectionneur. Il suffit de pas sélectionner les joueurs. Comme mais ça, voilà, vous n'aurez pas le souci.
Si demain il prend des décisions vraiment
radicales.
Voilà, radicales. Comment on va l'accueillir la presse? Alors, si vous dites qu'il est consensuel, est-ce qu'il va vouloir se mettre à dos la presse? Est-ce qu'il va vouloir?
Non, mais ça là-dessus, il la maîtrise bien. Je trouve que ses conférences de presse sont souvent assez bonnes.
Il a les gens l'aiment bien,
les journalistes l'aiment bien. Forcément de langue de bois, il dit des choses. On fait une page de pub.
On refait le match.
Oulalalala.
Eugène Sacomano sur RTL.
On refait le match et on a parlé du comportement des joueurs pendant le match et pendant leur séjour là-bas en Ukraine. Mmh. On va peut-être maintenant aborder beaucoup plus franchement l'avenir de cette équipe de France. Est-elle taillée pour aller au Brésil?
Elle est taillée.
Ou pas? Est-ce qu'il faut changer Blanc? Est-ce que Blanc va rester? Est-ce que les joueurs vont être sanctionnés? Enfin, tout cela...
Blanc va rester, ça, on peut le dire quasiment. Hein. Sauf si lui décide de ne pas y aller. Mais Blanc, aujourd'hui...
Il a des exigences, quand même, hein, de staff salarial. Est-ce que le Braet y accédera?
Ce qui est marrant, c'est que s'il reste, ça veut dire qu'il n'y a pas l'autorité du tout chez Noël Le Graët. Parce que déjà que Noël Le Graët et Laurent Blanc n'étaient pas proches. Si maintenant Le Graët cède à Blanc, parce que Blanc, s'il reste, il n'y aura pas de compromis. Hein. Il aura son staff, il aura ses exigences, il ira à l'hôtel où il veut, etc. Donc moi, je suis pour qu'il reste. Mais ça veut dire que Le Graët maintenant. Ça veut dire que Le Graët maintenant.
On le voit dans votre démonstration.
C'est totalement à Blanc. Et que donc Le Graët, comme les présidents d'avant, n'incarne aucunement quelque autorité que ce soit. J'attends de voir.
L'autorité de Noël Le Graët, c'est déjà de se dire. Qui je prendrais en cas de départ de Laurent Blanc? Ouais, ça, c'est déjà la première des choses. On peut pas faire la politique
pourquoi
d'être
à brûler. Pourquoi il l'a pas fait re-signer avant alors, s'il n'y a pas d'alternative? Comme je disais, il fallait le faire re-signer avant.
Parce que justement.
Ça coûtait très cher en 2002.
Non, il fallait voir en plus comment ça allait se passer durant cet euro. Ça n'a pas été non plus un désastre.
Mais
absolu.
Non, je suis d'accord.
Donc, à partir du moment où ça s'est passé comme ça, on peut continuer avec lui. Parce que ça veut dire que si vous enlevez Blanc, vous mettez qui?
Rudy Garcia.
Rudy Garcia.
Mais Rudy Garcia.
Ou Paul Le Guen, il a Oman, peut-être qu'il veut revenir.
Il est en poste, Rudy Garcia.
Didier Deschamps.
Didier Deschamps, il est en poste.
Non. Je ne crois pas qu'il prend la succession de Blanc tout de suite.
Non.
Il attendra.
Donc, comme les négociations n'ont pas été faites au moment où elles auraient dû être faites, de toute façon, ce sera Laurent Blanc et Laurent Blanc va rester. La question, c'est quels sont les joueurs qui vont partir et par qui vont être remplacés.
Ça, alors, Laurent Blanc, selon vous, reste?
Oui.
On l'espère.
Moi, les petites indiscrétions qu'on a, elles sont plus du côté de Laurent Blanc d'ailleurs. Manifestement, il a envie de continuer l'aventure, si j'ai bien compris. Simplement, il ne va pas le dire tout de suite. Pourquoi il ne le dit pas tout de suite? Parce que ce serait aujourd'hui inécoutable, inaudible de dire au lendemain d'un échec comme cela. Donc il va prendre quelques temps, 8 jours. Peut-être 10 jours, et puis il va faire une grande interview dans un grand quotidien sportif, pourquoi pas, pour dire j'ai envie de rester, avec quand même en ayant tiré les leçons, sans doute, j'imagine.
Alors, sans doute, parce que vous savez qu'il y a le traditionnel match de l'été, qui aura lieu cette année le 15 août. Et l'équipe de France recevra au Havre, dans son nouveau stade,
elle va bien se faire
l'équipe de Division 2, mais qui a construit un stade magnifique. Donc l'équipe de France recevra l'Uruguay.
Mais elle va bien se faire accueillir, l'équipe de France, parce que divorce est quand même consommé. Avec la Coupe du Monde au Brésil, ça serait quand même impensable de manquer la Coupe du Monde au Brésil.
Attends, on va être barragiste au mieux, je te signale. Barragiste, c'est déjà barragiste.
Vous n'avez pas habité au Havre, parce que vous êtes content quand il y a...
Non, attends, pas au mieux, c'est les deux premiers. Ah, c'est pas les deux premiers.
Mais non, on est barragiste, enfin, moins que l'Espagne.
Bien sûr, on est dans un groupe à 5, donc on est déjà deuxième derrière l'Espagne, très vraisemblablement.
Je croyais que dans un groupe à 5,
Non, il n'y a que des groupes à 5 maintenant.
Il n'y a qu'un qualifié.
Non, il y en a deux.
Il y a qu'un qualifié, les amis.
C'est possible. Espagne, France, Biélorussie, Géorgie, Finlande. Il y a que l'Espagne qui se qualifie.
Exactement. Voilà. Que la France.
Oui, les barragistes.
Bien sûr. Voilà.
Parce que nous, on a la chance d'être dans un groupe à 5. Déjà, c'est une chance, ça nous permet d'être barragistes.
Donc, il y a un match amical, messieurs, un match amical pour mettre en place une équipe pour tenir la route.
Non, mais c'est plus ou moins la même équipe qui va être un petit peu remaniée.
Précisément.
Attendez, Hervé, franchement, Hervé, moi, je vous écoute. Et vous savez l'admiration que j'ai pour vous. Mais quand même, vous êtes formidable. Vous, pour vous, la une de l'équipe, c'est le changement, c'est maintenant, mais pour vous, c'est le changement dans la continuité. Je veux dire, vous n'êtes pas raccord.
Je me suis mal exprimé. On dira ça comme
c'est
ça.
Georges Pompidou,
de toute façon, vous avez dit,
le changement, c'est dans la continuité.
Non, je crois que c'est le slogan de Giscard en 81, le changement dans la continuité.
Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez la liste des 23 joueurs qui étaient donnés par Laurent Blanc, à quelques exceptions près, je dis bien à quelques, effectivement, on pouvait prendre Yang Ambiwa, on pouvait prendre. Peut-être que
c'est pas comme ça qu'il faut raisonner.
Vous avez un groupe de 25 joueurs. À l'intérieur de ce groupe-là, il va falloir effectivement couper quelques têtes, certainement. Et après, il n'y aura pas de grandes modifications. Mais si Diaby arrive à revenir physiquement, si Sagna revient, vous aurez Sagna et Debuchy. Et devant, il faudra laisser partir.
Mais Hervé, quel constat tu tires après 7 euros ? On a un gardien, ok. On n'a pas de défense centrale. À mon avis, on n'arrivera pas en 2014. On n'arrivera pas en 2014 avec. On n'arrivera pas en 2014 avec Rémy et Mexès, la charnière de titulaire.
Non, mais
on n'a toujours pas du milieu de terrain.
On a un attaquant qu'on a mis sur un piédestal.
Comment ?
T'espères que Varane en 2 ans.
C'est pour ça, ne parle pas de petits changements, c'est des gros changements qui vont intervenir.
Sur les 2 ans, oui. Sur les 2 ans, évidemment. Mais là,
il y a la moitié de l'équipe, il y a 5 joueurs de champ.
Oui, mais là, aujourd'hui, par rapport à ce qui va se passer en septembre, on ne peut pas modifier complètement l'équipe.
Au mois d'août, même.
Au mois d'août.
Je crois qu'au mois d'août, on va plus assister à des changements liés aux problèmes de comportement de certains. Qu'à un renouvellement des cadres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont atteints par la limite d'âge.
Même s'il y a
des joueurs qui n'ont pas le niveau international, qui ne sont pas convaincants, tu parles de la charnière centrale, on peut effectivement multiplier comme ça les exemples, mais.
Alouda a fait son temps aussi.
Ce sont avant tout 3, 4 joueurs qui risquent de ne pas être rappelés pour être sanctionnés moralement de leur comportement. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'on va assister à une révolution effectifs.
Sur le niveau, j'ai fait une petite liste. Moi, j'aurais enlevé Rami, Nasri, parce que bon, il faut bien une punition, même si après il est réintégré. Malouda, parce que j'aime pas. Et Ben Arfa, parce que dans le comportement, voilà, il est inexcusable. Après, il y a des joueurs à intégrer dans le championnat de France. On parlait de Mavouba. Je trouve que Mavouba, il a sa place.
Surtout qu'il a un profil de capitaine. Tu maintiens Diarra aussi.
Diarra, je le maintiens parce qu'au-delà de ça, je trouve qu'il a eu un discours de patron.
Qu'il va s'améliorer dans les deux années qui vont venir.
Oui, mais Laurent Blanc l'aime bien. Je pense qu'il va le garder. Il est capable de gueuler.
Qu'est-ce qu'il donne sur un terrain ?
On n'a pas de joueur capable de gueuler dans le vestiaire. Il y a un joueur.
Francesca, pour gueuler sur un terrain, il faut être irréprochable.
Et il a raté complètement sa saison à l'OM.
Otelli n'est pas irréprochable, j'ai un trou. Il n'est pas irréprochable.
Il a quand même une carrière.
Il faut un petit patron et il faut d'en avoir un vrai. Pourquoi pas essayer un Florent Balmont ? Florent Balmont qui a une vraie carrière.
Là, on part de loin quand même.
Parce que moi, j'ai envie de joueurs moins bons qui ont un vrai mental et qui ont envie de se battre pour cette équipe de France.
Je pense qu'elle a raison. Je me moque, j'en ai marre du talent. Elle a raison, Francesca. Si c'est pour avoir des gens de talent qui n'en ont rien à foutre, pardonnez-moi, qui n'en ont rien à faire, je préfère des joueurs qui ont peut-être un peu moins de talent, mais qui mouillent le maillot, qui ont envie. Mais arrêtez.
On ne peut pas dire arrêter. Hervé, vous savez que je suis comme vous. Franchement, je suis plutôt défenseuse des joueurs et tout ça.
C'est catastrophique.
Pompidou et Giscard, le changement dans la continuité. D'abord Pompidou en 69, puis Giscard en 74.
D'accord.
Alors là, je vous prends l'argent que vous voulez. C'est pas, le slogan, c'est Giscard à la barre en 74 et c'est en 80 le changement dans la continuité.
Mais
sur Giscard, le changement dans la continuité, c'est 74. Le slogan de 80. Et le Wikipédia se trompe. Je vous le dis, c'est Giscard à la barre en 74. Mais peu importe.
Je vais revérifier.
Peu importe. Et puis vous avez peut-être raison. Et puis on s'en fiche pour le moment. Mais je trouve que vous prenez pas la mesure.
Mais le changement, c'est maintenant, on s'en fiche pas.
Voilà. Ce que je trouve, Hervé, c'est que par rapport aux gens avec qui je parle, que ce soit dans les rédactions, hors des gens du foot, dans les cafés, dans les restaurants, on était en face tout à l'heure, dans un café, en train de parler, etc.
vous êtes déconnecté de ce que disent les gens.
Pas du tout, mais ben j'entends. Si. Mais je l'entends.
Puisque les gens sont écœurés.
Les gens, tout le monde m'en parle. Tous les
gens sont écœurés. Les gens sont écœurés du comportement de l'équipe de France. Et vous, vous dites, oh, bah, faut reprendre les mêmes. Non, tout va bien, bon, madame la marquise.
Tu as dit très peu de changements.
Bon, très peu de changements. Et quand je vous dis, je préfère Florent Balmont qui se bat pour le maillot que des joueurs de grand talent qui ne se battent pas, vous dites, bah non, faut pas.
Bon. Ah, bah non, je ne comprends pas. Il a raison sur un point. À un moment, l'histoire de mouiller le maillot, je ne crois pas du tout.
C'est ça, moi, sur lequel
je ne crois pas du tout.
Les joueurs mouillent le maillot.
Pourquoi vous ne croyez pas ça?
Parce que je pense que les joueurs donnent le maximum.
Et pourquoi
le maximum?
Et pourquoi les Anglais sont en larmes derrière en ayant perdu? Vous avez vu l'interview de Steven Gerrard qui dit voilà, je pense que l'Angleterre peut être fière de nous parce qu'on a tout donné. Et je pense que les supporters ne peuvent
rien. Bon. Les Anglais aussi.
Attends, je sais que j'adore l'équipe d'Angleterre, hein, mais quand même, ils ont laissé la moitié à la maison pour les problèmes de racisme. Il y en a un qui va être jugé bientôt. Ils ont trompé, leurs petites amies avec
Pascal,
les autres.
Pascal, laissez-moi finir.
Comme exemple, je les adore.
Hier,
comme
il pleurait à la fin du match. Vous avez vu un joueur français pleurer après le match?
Comme exemplarité.
En dehors du terrain.
J'aimerais t'entendre. Si Nasri avait fait ce qu'a fait John Terry, si Machin avait fait ce qu'a fait.
Mais on parle pas des mêmes choses.
Alors attention, les coups de bouteille en pleine nuit devant les boîtes de nuit, ça il le sait. C'est hebdomadaire en Angleterre.
John Terry. En dehors du terrain, c'est le pire des hommes. Sur le terrain, c'est le mec qui se bat pour toute
son
équipe.
Ça prouve bien que l'important, c'est le terrain, souvent.
Oui, mais alors justement, je pense que Vincent, vous mettez d'accord tous les deux. C'est que, d'accord avec toi, ils ont mouillé le maillot, mais d'accord avec Pascal, ça n'a abouti à pas grand-chose parce que la plupart d'entre eux, et en particulier les joueurs offensifs, mouillent le maillot pour eux-mêmes. Ils sont dans une construction individuelle de leur talent.
Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'ils le font de manière individuelle.
Tu prends des joueurs moins bons, mais qui mouillent le maillot dans le sens mais du collectif, là tu auras la sensation qu'ils le mouilleront parce qu'ils compenseront les pertes de balles, ils compenseront les désavantages.
À nous de l'expliquer.
Je vous rappelle quand même que Montpellier est champion de France cette année avec des joueurs peut-être qui sont moins bons qu'à Marseille, qu'à Lyon
et qu'à Paris.
Mais il y a un supplément d'âme, excusez-moi.
Il y a un vrai jeu sur le terrain aussi.
À la prochaine liste, dans une grande compétition, la presse réclamera, comme elle l'a fait là, Ben Arfa. Moi je me suis élevé contre, mais Ben Arfa, le talent. Les buts à Newcastle, là, deux buts à Newcastle en 5 ans. Ah, Ben Arfa, le talent pur, Nasri, le talent pur. Tout le monde réclamera le talent et que le sélectionneur qui écartera en amont le talent en disant celui-là aura des problèmes de comportement, il se fera démonter parce qu'on les dira.
Ben Arfa, c'est le mal aimé,
c'est le pire.
Mais du coup, quand il revient, il a envie de prouver pour sa pomme.
Bon, alors une question justement à propos de il revient. Est-ce que Nasri, par exemple, aura le même sort que Ribéry et
Evra.
Est-ce que Blanc reprendra Nasri au bout de 2-3 matchs?
C'est une très bonne question. Moi, je suis pas pour un tribunal et la nuit des longs couteaux et que parce que ce qu'a fait Nasri est suffisamment insupportable pour que on puisse l'écarter. De là à le traduire devant un tribunal fédéral, non. Je pense que
et de le condamner à vie, quoi.
Même pas ou à vie ou à débat. Je pense que
si c'est un tribunal fédéral, il serait acquitté, rassure-toi.
C'est à Laurent Blanc ou à celui qui sera nommé sélectionneur de se dire et de, peut-être de dire publiquement, voilà, il s'est passé ça. Aujourd'hui, j'ai envie de construire un groupe dans lequel certains joueurs aujourd'hui ne s'inscrivent pas. Si j'ai dit bien aujourd'hui, je ne fixe pas de date, je ne fixe pas de limite, parce que ça sert à rien de dire dans trois semaines, dans trois mois ou dans six mois. Je pars avec ces joueurs et si d'aventure, sur le plan sportif ou sur le plan humain, je reçois des messages tels que je me rends compte que ces joueurs méritent de revenir, je ne m'interdis pas. C'est exactement comme ça qu'a fonctionné Joachim Löw. Il a fonctionné comme ça avec Michael Ballack pour des raisons à la fois sportives mais également extra-sportives. Et en même temps, je finis là-dessus, Kuriani, le joueur qui est l'avançante, qui était un titulaire indiscutable, qui s'en était pris vertement au sélectionneur, il lui a fermé les portes de la sélection, quel que soit ce que cela allait coûter à la sélection. Regardez où est aujourd'hui l'équipe d'Allemagne.
En revanche, il y a l'exemple effectivement de Ribéry. Ribéry,
exactement,
qui est un des plus concernés par Nizna.
Transfiguré.
On le fait donc languir pendant six mois, un an ou presque, et puis il revient et il est bon.
Mais c'est pour ça que
il est bon dans l'état d'esprit.
Cette jurisprudence est aussi très intéressante.
Si je puis rebondir sur ce qu'a dit Eric, qui est très intéressant et en même temps totalement faux. Bon, c'est très intéressant parce qu'il nous décrit une situation allemande rêvée. Évidemment, puisqu'ils ont réussi pour la première fois depuis quelques années à intégrer des membres de la minorité turque. Ils ont réussi à travers le sport, avancer.
Mais oui.
Ils ont réussi à travers le sport à avancer dans une intégration. Ce qu'on touche en France en ce moment, c'est le paradoxe, les cassures, les fêlures de la société française qui rejette les jeunes des banlieues. C'est la coupure entre la richesse et la pauvreté, entre deux France qui ne se rencontrent plus. Mais évidemment,
mais je suis pas d'accord.
Mais évidemment, c'est la rupture d'une certaine société.
Ce n'est pas ça.
On est en plein là-dedans dans le débat. Et vous refusez de l'aborder parce qu'il vous gêne encore une fois. Rendez-vous dans deux ans, même débat.
Aucun des trois en question n'avait une vie de banlieusard ou d'homme de banlieue.
Et ils n'étaient pas comme ça en plus.
Ils n'étaient pas comme ça.
Ils n'étaient pas comme ça. Samir Nasri, tous les témoignages que nous avons, c'est l'exact contraire.
Moi, je le connais bien. J'ai quand même travaillé pas mal avec lui.
Donc, c'est l'exact contraire. C'est quelqu'un de structuré.
Vous avez
de...
l'implosion comme ça qui tombe du ciel.
Mais écoutez, moi, je parle sous le contrôle.
Zidane était très bien éduqué. Ça l'a pas donné des coups de boule.
Vous avez des causes sociologiques qui dérangent.
Voilà. Mais pardonnez-moi, prenons l'exemple de Samir Nasri. Voilà un garçon qui passe à Marseille, qui est remarquablement élevé. Tout le monde ne fait que louer son comportement. Il est capitaine. J'entendais Robert... Laissez-moi terminer. J'entendais Robert Nazatian, son entraîneur... C'est ce que disait son entraîneur, Robert Nazatian.
Nazarétian,
pardonnez-moi. Disait, lorsqu'on faisait visiter le centre de formation, on faisait visiter la chambre de Samir Nasri. Il a toujours été irréprochable.
Mais ça par rapport à ce qu'il était comme joueur.
Et tout d'un coup, à 23, 24, 25, son attitude change.
C'est pas vrai. Et donc,
c'est
alors, pas vrai.
Non, en plus, c'est
l'argent
faux.
L'argent,
c'est faux. Et la rupture de la société.
Non, mais l'argent, c'est faux. Peut-être. Mais les autres, c'est ce que disait Eugène.
Moi, j'ai toujours bien aimé, en plus, comme gars, mais il a toujours été très, très à cheval sur son image. C'est quelqu'un d'intelligent, qui est malin, un peu manipulateur parfois. Il a toujours été comme ça.
Et très entouré, très préservé par
son père. Oui,
son père
a toujours été très présent autour de lui. C'est quelqu'un de très bien, d'ailleurs. Et si vous voulez, l'image que vous me donnez de Nasri, c'est pas tout à fait ce qui passait. Dans le vestiaire, il y a eu aussi des problèmes avec Nasri. Valbuena n'a pas été toujours mis dans les meilleures conditions quand il est arrivé à l'époque par Dasrebi. Le football professionnel, c'est un monde de loups.
On revient au sujet dans un instant.
5, 4, 3, 2, 1.
RTL.
On refait le match.
Comment ?
On refait le match sur RTL.
Oui. Eugène Saccomano.
Allez.
On refait le match effectivement avec Verdez, Penaud, Antoniotti, Machno, Bilderman est pro. Alors, nous étions sur le canapé.
Je suis content que vous disiez que Bilderman est pro, je suis assez content d'être pro.
et on parlait de ces joueurs, parce qu'un vestiaire de football...
Bilderman, donc ça n'a pas
C'est beau. Voilà.
Mais un vestiaire de football, c'est vrai que c'est un monde de loups, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir croquer l'autre pour gagner sa place. Et quand Pascal parlait de ses caractères, de ses tempéraments, dans toutes les équipes du monde, avez des joueurs ultra difficiles à gérer. Est-ce que vous pensez que Cristiano Ronaldo est facile à gérer? Quand il prend la balle, il veut dribbler tout le monde. Là, aujourd'hui, là, il épure un petit peu son jeu.
Il compense le fait d'être difficile à gérer en étant extraordinaire sur le terrain et en faisant la différence sur des grands matchs.
Au moins, il fait la différence.
Mais toutes les dernières compétitions, il a été
jugé
d'un
absent. Non,
mais vous êtes d'accord.
C'est un des rares qui a mis un but quand même.
Il a mis un but, d'accord. Vous êtes d'accord que les gens sont en train de sélection, à part sa couverture de balle, mais qu'est-ce qu'il a d'efficace?
Et la couverture qu'il tire accessoirement.
Quand un joueur est chiant, vous êtes d'accord que quand un joueur est chiant ou très difficile à gérer, à partir du moment où il est extraordinaire, on lui pardonne tout. Ça a été le cas, par exemple, d'Ibrahimovic qui est extraordinaire, qui peut être très, très dur à gérer. C'est le cas de Balotelli, malgré la note qu'il a dans votre extraordinaire Robin, quotidien, j'ai quand même trouvé
aussi,
extraordinaire.
Oui.
Voilà, il y a plein de joueurs.
Voilà.
Le problème, c'est que dans notre équipe, il n'y a pas que lui. Si avec Nasri à gérer, qu'autour, il n'y avait que des gens extraordinaires, capables de lui dire, comme les Italiens hier à Balotelli, maintenant tu te tais, tu vas la boucler, puis tu vas essayer
Mais attends, dans toutes les équipes, dans l'équipe de Hollande, il n'y a pas que Robben. Il y a Schneider.
Votre discours est extrêmement dangereux de dire c'est partout pareil. Il y a deux discours.
Laissez-moi terminer.
Il y a deux discours qui se mettent en place. C'est toujours pareil. C'est partout pareil. C'est ce que vous dites. Et de manière encore plus perverse, vous dites en équipe de France, ça a toujours été pareil. Souvenez-vous, 78, 82, etc.
Donc vous banalisez
ce qui s'est passé parce que vous ne
Mais c'est la vérité.
Non, c'est la
la seule fois qu'on accuse une équipe de France de jouer à 80 ou 70% de sa valeur et de ne pas tout donner sur un terrain.
Je dramatise, je dis que les fêlures sont les fêlures de la société française et que la non-intégration, c'est la non-intégration de la société française qui fait qu'il y a un mal-être au sein de l'équipe de France, un mal-être dans la société.
C'est possible, je crois que d'ailleurs qu'il y a une part de vérité dans ce que vous dites.
Mais comme les quatre dont vous parlez, parce qu'on pense toujours au même, Nasri, Ben Arfa, Benzema, etc., etc., ce sont les quatre méga-stars quand ils avaient 12, 13, 14 ans, qui ont été couvés comme des œufs. C'est-à-dire qu'on leur laissait tout passer.
C'est plutôt des enfants pour gâter que des mecs qui souffrent.
Exactement, ça veut dire que quand ils sont arrivés à 18, 19, 20 ans, ils n'ont accepté très peu de critiques. Moi, je me souviens d'une discussion avec Benzema, où quand Jaroulier le faisait jouer à gauche, il me disait, pendant j'ai discuté des heures, moi, avec Benzema, et il me disait, ouais, je préférerais jouer dans l'axe. Mais lui, il voulait jouer dans l'axe. Il ne se posait pas la question de savoir, mais j'ai 18, 19 ans, il avait déjà son point de vue. Parce qu'il avait été entouré. Alors que les autres, qui sont de la même génération, Cabaye est de la même génération, Loris est de la même génération, Debuchy, à un an près, quoi. Ils sont tous de la même génération, mais ils sont différents. Différents, c'est lié peut-être à leurs origines, mais ça, c'est un terrain sur lequel je ne veux pas aller. Mais surtout, donc on disait origine, je ne disais pas origine.
Donc quand on louait la.
Je comprends. Les origines sociales. Mais ce n'est pas obligatoirement lié à ça, c'est certainement plus lié à l'éducation qu'ils ont eue sportive.
Donc quand on louait la formation.
Dans ils ont été.
Non, mais quand on loue la formation à la française, on est bien d'accord, quand on connaît un petit peu les centres de formation. Et quand on voit un petit peu comment discutent les éducateurs, il y a certaines pépites, et ces pépites-là sont surprotégées. Voilà, elles ont le droit à peu près de cracher sur tout le monde, de faire ce qu'elles veulent. Elles sont protégées dans leur jeu, c'est parce qu'elles font des gestes techniques, parce que c'est des joueurs qui sont capables de faire toujours la différence. Et ces joueurs-là sont protégés, alors que les autres sont plus élevés à la dure.
Ouais, et quand on voit. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que vous dites tous, parce que ce sont des joueurs à vocation offensive et des joueurs censés être décisifs, c'est-à-dire ceux qui vous amènent au bonheur, et des joueurs créatifs, ceux qui vous amènent à l'émotion.
Oui.
Et ces joueurs-là sont des faiseurs de bonheur, des faiseurs de spectacle. Et
généralement, soit ils deviennent des stars, soit ils sont.
Donc forcément, c'est comme des acteurs qui deviennent, qui passent du statut d'acteur au statut de star et qui disjonctent. Alors qu'il y a des centaines d'acteurs, même s'ils ont un taux de crédibilité, ils sont connus, ils restent à peu près normaux. Il y a 80% des joueurs qui restent normaux, il y a 20% des créateurs qui finissent par ne plus savoir qui ils sont.
Voilà, ils viennent Alain Delon.
Moi je crois.
Ils ne parlent d'eux qu'à la troisième personne.
Ça, c'est une démonstration qui qu'on peut retenir, mon cher pro.
Non, mais on ne parle pas de la même chose. Donc, on n'attaque pas. Enfin, je ne vais pas répéter.
Non, mais ça veut dire que c'est à Laurent Blanc. Si Laurent Blanc reste,
je suis lassé de dire toujours un peu la même chose moi-même.
Si Laurent Blanc reste, c'est à lui maintenant. C'est un quatuor. Il ne peut pas les garder les quatre. Ça, ce n'est pas possible. Non. Donc, à un moment, il y a des exemples à faire. Et puis surtout, on avait vous rappelez la signature de la charte de bonne conduite, complètement ridicule.
C'était sous Domenech, ça, non ?
Non, c'était juste à l'arrivée de Laurent Blanc.
Il y a deux ans.
Il devait pas avoir de casque sur les oreilles.
Et les casques, par exemple, on a vu plein de joueurs avec des casques.
Mais pourtant, c'était interdit, par exemple.
Voilà, donc c'est
pas le casque qui rend débile.
Comment vous dire d'abord. Moi, ce qui me frappe, c'est comment peuvent-ils arriver avec des casques alors qu'ils ne doivent pas en porter.
Oui,
et tout
vrai.
Est comme ça.
Maintenant, là encore, Pascal. Je vous prends l'exemple des autres équipes qui ont tous le casque pendu aux oreilles.
Je vous dis pas ça.
Les Hollandais, les Italiens,
ils n'écoutent pas la même musique.
Comment tu peux mettre les pieds sur les banquettes du métro alors que t'as pas le droit ? Quand je dis que c'est un problème d'éducation, de société, maintenant vous chargez Blanc de résoudre le problème de la société française dans les deux ans. Mais il peut pas, le pauvre Blanc. Il peut être sélectionneur, c'est tout. C'est pas un problème de football, c'est ça pour moi l'erreur d'interprétation. C'est un problème. C'est un problème de société. Et comme cette société française est en délire et brisée de partout, l'équipe de France qui la représente, c'est pour ça que ça nous fait tant de mal, je vous signale. Parce que l'équipe de France,
Gilles,
c'est la France.
Gilles, on attend
cette équipe de France est brisée.
Mais j'entends ça, je crois que Laurent Blanc, il y a une partie de vrai dans ce que vous dites.
L'analyse
il y a une
du
partie
sens,
de vrai.
Non, mais donc, on n'attend pas de Laurent Blanc que ce soit Pascal le grand frère. Il ne peut pas changer ces joueurs-là. Ces joueurs-là,
mais
ils sont déjà comme ça.
Moi, j'aimerais qu'il précise une chose, qu'on le précise aussi pour Pascal, c'est que s'il y a ces attitudes, c'est-à-dire les pieds sur les banquettes du métro, ce n'est pas parce qu'ils sont Blackos,
mais jamais j'ai
sont...
dit ça.
Ah non, mais je vous le dis.
Non, mais attendez,
Non, mais on ne peut pas arriver à cette conclusion-là, puisque dans les joueurs que vous citez, vous avez cité Ben Arfa, vous avez cité.
Et Ribéry.
On a cité Ribéry, mais on a cité aussi Menez.
Oui.
Donc, et puis, dans les bons exemples, entre guillemets, des joueurs dont on a
cassoulet du comportement. Vous citez Rami, vous citez Diarra, vous citez Clichy, vous citez Debuchy, vous citez Koscielny. Oui. On est dans le même ping-pong le plus absolu.
Moi,
dans
je
le
ne
bon
tire pas de conclusion.
Mais Jérémy, par exemple,
etc.
il vient de Brest.
Je dis
il
simplement.
A pas vécu, non, mais simplement, Jérémy, il vient de Brest. Il n'a pas vécu les trucs. Il vient d'un milieu qui est correct. Et c'est vraiment ça, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est au centre de formation. Bien il sûr. A commencé à illuminer tout le monde par ses gestes. Tout le monde a dit c'est la future star, c'est la future star. Et quand on vous dit toute la journée, quand vous avez 12 ans ou 13 ans, que vous allez être un futur génie, que vous allez être milliardaire, et ben vous finissez par le croire et à pas vouloir vous remettre en question quand on vous dit des choses. Je vous promets que j'ai raison, Pascal.
Mais le système fédéral crée des monstres.
Non, on peut arrêter les machines quand même. Je répète mon exemple de Nasri. Vous n'avez pas voulu m'entendre. Vous ne voulez toujours pas m'entendre. Nasri, dans l'avion après France-Angleterre, vous ne voulez pas entendre cela. Dans l'avion, comportement inadmissible sur le terrain. Dans l'avion.
C'est-à-dire dans l'avion.
Il a mis les pieds sur le siège.
Non. À partir du moment où il donne une image de l'équipe de France qui n'est pas celle qu'on veut avoir, c'est-à-dire une image de l'équipe de France irréprochable, à partir de ce moment-là, dans un tournoi européen, il a fait une faute, il marque un but, il insulte un journaliste, ce que n'importe quel éducateur sanctionnerait.
Nouveau Nice-Na, là. Donc vous êtes un pro-Thuram. Thuram avait dit après Nice-Na, faut pas oublier. Hein. Lui, il avait même dit à Laurent Blanc, moi je suis pas du tout d'accord avec cette politique. Tous les joueurs qui était à Nice-Na, mais on passe une autre génération.
C'est ce que j'ai
mais
dit tout le temps.
Mais vous auriez été le premier après
non, j'ai
deux
toujours,
matchs
non,
en
non,
septembre,
non,
en octobre,
non,
après les 4-0 et les 5-0.
Les mutins de Nice-Na, j'ai toujours trouvé que c'était
mutins
une erreur.
Sont
de
tous les joueurs.
Non, je trouvais que c'était une erreur.
Tous les joueurs.
Tous les mutins, je trouve c'est de toute façon que je pense que ça te... Quand quelque chose est cassé, c'est cassé, d'une certaine manière. C'est pour ça que Nasri, quoi qu'il arrive, son aventure avec l'équipe de France, elle est cassée. Il évoluera dans son club. On lui souhaite beaucoup de bonheur ailleurs.
Ça ne sera pas un Ribéry, alors.
Nasri, quand c'est cassé, c'est cassé, c'est fini. Voilà.
Et Ribéry, il n'a pas été cassé et il en est revenu. Pourtant, c'est quand même pas le...
Vous êtes assez... Oui, oui, oui.
Ah oui,
Ribéry.
Mais de toute façon, avec vous, moi, je vois bien. Vous êtes en fait le conseil... C'est marrant parce que vous critiquez un peu le conseil fédéral qui ne prend jamais de sanctions. Et au fond, quand je vous écoute, Hervé, franchement, pour vous, pas de sanctions. Je parle même pas de gêne. Gêne,
moi,
il pardonne à tout le monde, c'est normal, il n'est qu'amour. Mais voilà.
Je suis d'accord sur la philosophie de Pascal, même si j'ai pas envie d'insulter l'avenir concernant Nasri. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé avec Nasri par rapport au mutin de Nice-Na, c'est que d'un côté, je vous dis, on a un comportement collectif, même s'il y en a dedans, comme Ribéry, qui ont été plus impliqués que Valbuena, mais sur ce qui s'est passé là, c'est quelques comportements individuels. Donc, on peut effectivement porter un jugement plus dans le doute sur la pérennité de Nasri en équipe de France qu'on ne pouvait le porter sur la globalité des mutins de Nice-Na. Mmh.
Mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez l'impression tous, c'est là où je tombe des nues, de découvrir par exemple Ben Arfa avec son téléphone. Mais Ben Arfa, il était comme ça. Avant, tout le monde l'a réclamé à corps et à cri. Ben Arfa, il est comme ça. C'est un joueur comme ça.
On l'a réclamé à corps et à cri parce qu'il a un talent fou.
Alors donc,
il a fait six mois. Mais Eugène, il a encore le talent, là. Désolé.
Eugène, ça se comprend parce que lui, il est dans ce raisonnement-là. Mais Pascal, qui l'a réclamé, on ne comprend pas.
C'est étonnant.
Parce que Pascal, non, mais
alors,
pas
alors, mais, alors moi, je vais vous dire pourquoi.
Vous aviez vu un but à Newcastle.
Mais je vais vous dire pourquoi.
Je vais vous répondre pourquoi.
C'est que moi, je ne préjuge jamais. Tant que le joueur ne s'est pas mis en faute, je ne vais pas en plus préjuger d'une attitude de racontard. Avec l'équipe de France, jamais que je sache, il n'était pas à Nice-Na.
Oui, mais enfin, il y a pas mal de clubs où on sait qu'il y a
avec l'équipe de France, je suis désolé, on ne fonctionne pas comme ça. Si vous vous préjugez, moi je ne préjuge jamais.
C'est vrai. Son unique faute, c'est d'avoir allumé son téléphone portable, c'est qu'on lui a peut-être aussi laissé l'allumer. Ben Arfa, c'est Balotelli, c'est pas méchant, il part.
Non, moi je lui... Alors, évidemment, c'est un point qui, effectivement, est condamnable. Mais la vérité, puisqu'on a quand même quelques informations aujourd'hui dans le staff, du staff de l'équipe de France, et j'ai eu aujourd'hui des témoignages de gens qui, effectivement, ont trouvé qu'il ne correspondait pas exactement à ce qu'on attend d'un joueur professionnel de football en équipe de France pendant les trois semaines.
Et
voilà.
On le met un peu de côté pendant un an s'il le faut, et puis on voit.
Mais il ne faut pas donner de date. On les met de côté, on part autrement, et ensuite, l'avenir.
Exemple de comment vous l'avez appelé de Carioni
Curiani,
l'argentin,
mais avec la possibilité
Hugo
de Curiani.
Bon, moi je trouve votre exemple est très bon.
Et
je trouve que
avec la crainte de ne jamais revenir, parce que si ça se passe bien, avec
bien sûr.
Joueurs,
et Jacquet, quand il a viré Cantona et Ginola, est-ce qu'ils sont revenus?
Jamais.
Ça ne nous a pas empêchés de vivre et ça ne nous a pas empêchés d'être champions du monde. Et eux, ça ne les a pas empêchés de s'épanouir.
C'était deux immenses stars.
Et comme footballeurs. Et c'était des stars bien plus incontournables. Cantona, c'était le roi d'Angleterre.
Mais c'est ce que je vous ai dit hier. C'est ce que je vous ai dit hier. Sur Ginola et Cantona, vous m'avez repris. Je vous ai dit ça hier.
Les raisons.
Punir, c'est l'argument des faibles. Quand on punit, c'est qu'on a été faible, qu'on n'a pas su prévenir. Essayez de prévenir, il y aura moins de problèmes.
Sur ces paroles-là, on va se quitter.
Merci, docteur.
Salut à tous. Merci, docteur.